Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à l'autonomie italienne et son refus du travail, avec notre invité Oreste Scalzone. Alors dans une première partie, nous avons parlé de la critique du travail, notamment dans l'éditorial du numéro 1 de Classe Operaia de Mario Tronti, de l'expression refus du travail de Tony Negri, et ensuite de toute la critique, de tous les arguments, disons, de la critique du travail qui était développée dans les articles d'Oreste Scalzone dans Potere Operaio. Maintenant, évidemment, cette critique qu'a développée Oreste Scalzone fait partie d'un vaste mouvement de refus pratique du travail pendant les années 68 et 70 en Italie. À la fois, cette critique du travail procède d'un certain nombre de pratiques de refus du travail, et en même temps, elle est venue se métaboliser, s'incarner, disons, dans un certain nombre de pratiques, dont Oreste Scalzone va nous parler, que ce soit les dites autoréductions, les grèves de loyer, et tout un tas de refus du travail et de son monde, c'est-à-dire, en fait, du capitalisme.
Les pratiques. Déjà, j'ai signalé les pratiques, celles qui étaient alors là, si spontanées et même individuelles depuis toujours, quand je disais la résistance physique et humaine de survival contre le travail qui caractérise tout prolo et ouvrier qui n'est pas vraiment une espèce de esclave dans la tête ou de troupeau de... mais après, donc j'ai déjà parlé, je reviens pas là-dessus, sur la lutte plus de sous, moins de travail. Mais cette lutte, déjà à niveau d'usine, la Fiat, ça a été magnifique de ce point de vue, c'était pratiquer une forme qui tendait au travail zéro. Nos camarades de New York faisaient un journal, Lavoro Zero, Zero Work, mais là, c'était vraiment, à un certain moment, on utilisait tout. Les chefs et les contremaîtres ne mettaient pas la tête dehors parce que c'était très facile de passer du sabotage microphysique au fait de les faire courir à coups de boulons, morceaux de fer, etc. L'histoire, par exemple, qui peut sembler un peu une volagerie, nos camarades de Turin avaient fait un autocollant qui avait eu une fortune énorme, Faites l'amour le lundi. C'était l'absentéisme à niveau vertigineux, le taux d'absence à la Fiat, à l'Alfa Romeo, dans les grandes usines était faramineux. Le fait d'utiliser une espèce d'inflation des permissions syndical, tu sais, le syndicaliste, c'est considéré en détaché, il a des permissions de s'absenter, c'était déjà en conquête dans les années 50 pour aller faire son boulot de syndicaliste. Alors tout le monde disait, ça c'est pour tout le monde, vous ne pouvez pas être une corporation de merde, de bureaucrate, non, donc ça, moi je suis délégué, l'autre, non, moi je ne suis même pas délégué, mais je vais voir qu'est-ce que vous me dites si je me promène à l'autre bout pour organiser une grève. Vraiment, grosso modo, la productivité et la production s'étaient réduites. Bon, on peut aussi, parce que ça fait plaisir quand même, on pourrait les garder comme livre de chevet, aller lire les récits du côté patronal. Il y a un livre de Cesare Romiti qui avait été là pendant de longues années, de Fiat, disons le numéro 2 après Gianni Agnelli. Quand il raconte, peut-être la fabule, qu'après la grande occupation de la Fiat de 1974 dans l'usine, alors lui, c'est Cesare Vomiti, le numéro 2 de la Fiat, il raconte, toujours pour avoir la partie belle, qu'un jour, comme dans les contes des fées, et il s'était un peu déguisé, il s'était fait porter par les chauffeurs, alors qu'il avait fait les tours de la Fiat, il avait vu le climat, il était rentré dans l'édifice de la direction, et il avait dit au frère Agnelli, écoutez, ici c'est foutu, hein. Il faut délocaliser, il faut envoyer à Cordoba, la Fiat de Cordoba, même s'il y avait eu la séquestration d'un dirigeant par l'air, par l'Argentin, l'Argentine s'est parée, il faut aller à mettre la sellerie en Pologne, il faut faire des trucs en Union soviétique à Togliattigrad, ici c'est mieux si on délocalise la production. Lui, il s'attribue cette vision et qu'on fait une conversion vers les assurances, les financières et tout ce qui avait caractérisé Fiat. Donc, si tu lis leur récit, n'en parlons pas. Et donc, alors, l'absentéisme, la situation de désordre permanent à l'intérieur des usines. Et puis, à l'extérieur, les territoires, donc, et comme la question du logement, c'était commencé en 69 à Turin, tu sais, même le diable fait les poêles, comme on dit, les casseroles, mais pas les couvercles. Tu imagines que, avec une bêtise, je l'ai dit dans Oreste contre la montre, c'était encore 69, les modèles, c'était encore le binôme taylorisme dans la production, fordisme dans la régulation sociale. Ici en France, on faisait arriver les immigrés, il y avait, disons, soi-disant le plein emploi. Sauf que la différence, un peu, une des différences dont on parle jamais tellement, c'est une évidence un peu objective, c'est que la figure centrale de cette composition des classes de l'époque, c'est que nous on appelait l'ouvrier masse des années 60, je dis, et les OS, pour dire une typologie, no? En Angleterre c'était des Pakistanais, à Volkswagen c'était des Turcs ou des Kurdes, en France c'était beaucoup de nationalités, mais de plus en plus des Algériens. Donc c'était des immigrés qui arrivaient, qui étaient foutus dans les foyers, qui arrivaient tout seuls, qui devaient renvoyer beaucoup l'argent à la famille, qui étaient sous le chantage. Et tandis qu'en Italie, c'était des Italiens avec leur carte d'identité qui venaient du sud, un énorme transfert de force de travail interne. Donc, le printemps 69, avec déjà les bordels, les débrayages, etc., la Fiat embauche 15 000 entre ouvriers et employés. Ça signifie 60 000 personnes qui débarquent à Turin, l'explosion de la question du logement, le syndicat qui essaye de contenir. Nous, à l'époque, c'était pas encore potere operaio, c'était la classe, mais c'était, on a beaucoup tiré la chose, il est né une espèce de, on a parlé d'insurrection de Corso Traiano, de Michelino, trois jours, avec les camions qui transportent les produits finis en sandier, des barricades, des trucs, et ça se répétait à Milan, au milieu de l'automne chaude. Donc, après, surtout l'année 70, ça a été l'année des occupations, je ne veux pas dire généralisées, mais des occupations d'habitation à Rome, à Milan, dans toutes les grandes villes, même les petites. Donc on ne paye rien, la casa si prende, l'affitto non si paga, l'habitation on la prend. C'était mieux que dire est un droit. Non, on la prend, on va pas la payer. Et puis, c'était passé à la, guillemets, réappropriation directe de la richesse sociale. Donc, ceux qui pouvaient revenir à des formes d'action des rayottes permanents au grand supermarché, avec après toutes les évolutions que tout ça a eu. Et puis, il y avait l'élargissement par les mouvements des autoréductions. Parce que ça, c'était pas en alternative. Il n'y avait pas une espèce de guerre idéologique. Non, nous, on squatte, vous êtes réformistes, parce que c'était des formes qu'on trouvait dans une pulpe vivante des mouvements. Donc, on pouvait dire, il y a un paquet des bâtiments, des cités qui sont toutes occupées, il y a des formes de résistance quand la police arrive, et puis il peut y avoir même des formes dans lesquelles on décrète qu'on paye les 10%, et c'était pas du réformisme, tu comprends, ou du syndicalisme modéré. Tout ça, c'est, comme tu le disais très bien, une forme indirecte, une pression passée de la pression salariale directe à la pression sur les salaires différés, les salaires indirects. Donc, sur ces terrains, il y a eu une pulpe de lutte qui a eu évidemment des cycles internes, mais en pouvant utiliser aussi le fait qu'en Italie, c'est un pays de 100 villes, donc il y a des cyclicités de lutte, mais quand c'est tombé d'un côté, il réagissait dans une autre ville, ça a été formidable.
Et juste ce que je voulais souligner et en même temps t'inciter à approfondir, c'est le fait que, donc d'une part, il y a quand même un refus massif du travail dans les usines. Donc l'absentéisme, effectivement, on en a parlé dans une autre émission avec Bruno Astarian, mais l'absentéisme, effectivement, va grimper jusqu'à 25% au milieu des années 70. Effectivement, c'est la panique du côté du patronat qui, effectivement, pense massivement à délocaliser, à fermer les usines, parce que effectivement, elle n'arrive plus du tout à gérer ce qui est plus du coup des micro-gestes de refus du travail, mais alors là des espèces de macro-gestes de refus du travail, des occupations, du sabotage massif, des coulages de cadence, de l'absentéisme systématique et tout ça. Et d'autre part, c'est important, je pense, de lier aussi ce qui s'est passé dans l'extérieur des usines et qui étaient aussi des formes de refus du travail, puisque finalement les autoréductions et les grèves de loyer, c'est aussi des formes de refus du travail, c'est-à-dire c'est refuser de devoir travailler pour des boulots en plus bien merdiques, quoi, dans les usines, pour avoir le droit, entre guillemets, de se loger ou de se nourrir et tout ça. Est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu sur la question, bon, l'autoréduction, on voit à peu près, la grève des loyers et la question de l'électricité, comment est-ce que tu pourrais donner peut-être quelques exemples ou approfondir un peu cette question par exemple, est-ce que c'était... les gens qui faisaient une espèce de pseudo-bail et puis après qui disaient on va pas payer, et que du coup, dès qu'il y avait des tentatives d'expulsion, les gens se groupaient et empêchaient l'expulsion? Ou est-ce qu'il y avait ça et aussi des formes carrément de squat, c'est-à-dire on demandait pas son avis au propriétaire, on rentrait dans l'appartement et puis s'il y a des tentatives d'expulsion, pareil. Est-ce que tu pourrais du coup détailler un petit peu tout ça?
Ben, là, je pense que y a eu quelques phase vraiment heureuse dans laquelle l'occupation directe, squat, je pense qu'à l'époque encore le mot squat c'était pas rentré dans l'usage, et donc des familles, évidemment il y a toujours, on va pas dire qu'il n'y a pas des meneurs qui pouvaient être nous ou d'autres camarades, disons des minorités agissant, voilà, pour relayer et tout. Et donc c'était par exemple des bâtiments vides, même ce qui correspondrait des cases popolari, aux HLM, etc., qui étaient vides, qui tardaient à être, qui étaient investis par des familles, disons, on pouvait dire largement d'immigrés. L'immigré, ça s'est trouvé qui était un transfert interne.
Oui, du sud de l'Italie, oui.
Ou aussi des régions, disons, plus pauvres, etc. Mais à l'époque encore, il n'y avait pas de la migrance en Italie significative, non, d'étrangers. Mais, Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'en même temps, au lieu de tomber dans le fait de mettre contre les habitants qui avaient déjà eu leur loyer et tout, ou alors les assignataires, de laisser jouer cette espèce de... j'aime pas trop l'expression guerre entre les pauvres, mais je dirais ce type de discratie, de contradiction, on essayait justement de les harmoniser, c'est-à-dire les uns occupés, et bon, alors les autres, en prévenant le réflexe qui est humain, hein, que s'il peut aller loin, que de dire, ben, mais alors moi je suis plus couillon, l'autre ne paye pas, et pourquoi je devrais payer, c'était de dire, ben non, tu ne payes pas, tu fais la grève. On organise de la grève, ça dépend du nombre, si c'est 40, 200 familles, etc. On va voir, c'est une force d'action collective. Après, ça pouvait arriver par moment aussi à des trucs d'autoréduction, mais simplement un peu pour garder une forme de façade en considérant qu'il y a aussi, c'est normal, des considérations. Même aussi des réflexes de relative prudence des pères ou mères de famille de ne pas se trouver en pôle ou à la rue quand ils ont des enfants en bas âge et tout, mais disons ça c'était une tentative d'élargir les fronts en harmonisant des formes aussi différenciées comme niveau. Je voudrais ajouter une chose qui, grâce à tes questions, me vient plus clairement à l'esprit maintenant. Je sais pas. Il ne faut pas penser que, mais tu ne le penses pas, que je dis que ces mouvements pratiques, avec une terminologie un peu française, 19e, on pourrait parler d'une espèce d'état de guerre sociale, disséminée, diffuse, etc. Il n'a pas été un continuum égal à soi-même entre les postes 68 et 69 et jusqu'à la fin des années 70. Par exemple, il y a un espèce d'intéressant paradoxe qui me vient à l'esprit, il faudrait fouiller. Et on parle souvent d'un moment, d'un espèce de stop, d'un espèce de choc, d'un espèce de tournant de passage, qui on place, mais même dans la littérature la plus diffusée, même mainstream, qui on place au moment de la guerre du Kippour et de ce qui est appelé le choc pétrolier. Non?
73.
Ben, considérons, c'est pas de la magie, c'est le hasard, quelque part, que c'est la même année, par exemple, d'un autre choc aussi dans mes consciences, qui a été
Pinochet,
le coup d'État en Chili. Donc, on est sorti vraiment l'EPC avec les articles de Berlinguer qui ont commencé à théoriser les compromis historiques et des slogans qui circulaient largement chez nous au sens large, jamais plus sans fusil. Mais je vais dire, le choc pétrolifère, la crise, c'est à ce moment-là que, quelque part, cette espèce d'allure... Bien sûr, difficile, il y avait même des morts faits par la police, il y avait eu Piazza Fontana, il y avait eu, mais disons, un peu triomphal, je dirais. Oui, il y en avait qui parlaient surtout de la contre-révolution qui avançait, mais même si tu prends lotta continua, c'est un peu ambivalent, mais disons, entre 68 et 69, c'était un crescendo. Même lotta continua che traduisait un peu, popularisait nos slogans, il parlait de la révolution culturelle dans les usines en Italie, dans les quartiers, dans les trucs. Après, c'est vrai qu'on peut dire que à 74, 75, il commence travail de reprise en main, de restructuration, les licenciements. C'est-à-dire, c'est comme si, il n'y a pas un Big Brother centralisé, mais disons, le côté, les partis capitalistes, etc., il s'est posé le problème de reprendre en main cette situation. C'est pas seulement après 78, et puis avec ces symptômes de la rafle judiciaire de 7 avril qui nous a concernés. Là, c'est commencé un retour de bâton de tout point de vue. Loi spéciale, type la loi anti-casseurs ici, mais surtout dans les lieux de production, dans les lieux plus que dans les quartiers peut-être. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle la restructuration. Alors là, paradoxalement, l'autonomie, à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle tout l'archipel, la nébuleuse de l'autonomie, ce qui était dans la coordination nationale de l'autonomie ouvrière organisée, ou c'est comme nous, comité communiste pour le potere operaio, puis comité communiste révolutionnaire, qui on n'était pas dans la coordination pour des raisons, mais qui on était vraiment dans cette paysage social jusqu'au bout. Alors là, on avait en même temps, tu comprends, d'un côté, des luttes de résistance qui ont beaucoup poussé pour, on peut l'appeler les court-circuits ou les raccourcis de l'action directement illégale et armée. Et donc, justement, le point de vue opéraïste, c'était que quand tu rentres en résistance, et en défensive ou en contre-offensive, c'est déjà foutu. Mais, notamment par exemple nous, des comités communistes, on considérait que ce n'était pas pour ça qu'on pouvait laisser tout ce terrain à une espèce de situation, l'abandonner à ses problèmes locaux. Et donc, là, il y a eu un aspect qui a été vraiment alors passé à un niveau supérieur. Ce n'était pas seulement une histoire subjective des groupes, les groupes armés, clandestins, non clandestins, etc. C'était aussi quelque chose qui était poussé par les noyaux les plus radicaux dans les luttes, surtout d'ouvriers de ce point de vue. Et en même temps, il y avait les processus qu'on peut appeler de la précarisation, la prolétarisation, donc des émergences d'un sujet qui sera le sujet des 77 et qu'on peut appeler les prolétarisés de la métropole ou avec une formule qui avait sorti Negri, l'ouvrier social. Ou alors, en même temps, il y avait cette espèce de réduit de résistance qui de plus en plus ne pouvait s'exprimer que par une violence directe. Des sabotages et aussi d'attaques à des figures du commandement. Et en même temps, il y avait l'émergence de cette nouvelle composition qui aura dans 77, qui pour l'Italie a été autant important que 68, son épanouissement, même avec les côtés durs et tragiques.
Oui, donc du coup, si je résume... En fait, il y a une tentative, donc il y a une période de 68, 73, 74 où il y a un refus massif du travail dans les usines et.
Dans les grandes usines.
Dans les grandes usines, Mirafiori et tout ça, Alfa Romeo. Et du coup, ce qui se passe en 74, 75, c'est qu'il y a une tentative de restructuration, c'est-à-dire d'une certaine façon de retour à l'ordre du travail avec une prolétarisation, une précarisation. Une tentative de d'éparpillement de la production, etc., d'un début de délocalisation. Et c'est dans ce nouveau terrain que vont se faire ces années, enfin l'année que va se faire l'année centrale de l'autonomie italienne, qui est 77, et que tu développes bien, notamment dans Rester contre la montre, qu'on invite. Genre la dernière chose et du coup une espèce de contre-révolution pour le travail qui va finir par par réussir malheureusement avec 78 et la répression judiciaire très forte de 78, et puis finalement la défaite finale de 1980, de la, enfin, qui est presque un symbole quoi de la grève de la Fiat. Est-ce que pour terminer l'émission, parce qu'on va finir dans quelques minutes, est-ce que tu pourrais nous dire quelle était finalement la, bon, même si c'est parce que c'est quelque chose d'important, la vision du coup, bon, peut-être dans un groupe, dans un nombre de groupes minoritaires, mais de, et en quelques minutes, de la vision des espèces de communisme sans travail, parce que je vais citer encore une fois quelque chose qui est dans Autonomie de Marcello Tari, un éditorial du supplément numéro 15 de Rosso en mai 75, qui dit: le communisme n'est pas la lutte pour un autre travail, il est lutte pour l'abolition du travail. Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être un peu détailler en 5 minutes du coup quel est comment est-ce qu'on envisageait peut-être de manière un petit peu utopistique voilà un communisme sans travail?
Oui. Je vais dire, toujours dans ces scrupules que je ne prends pas comme une vertu, mais à la limite c'est un peu une obsession de véridicité, il faut dire qu'à l'époque, chez, disons, nous tous, mais déjà depuis classe opéraille et puis potere opéraille, je prends aussi des figures de théoriciens, il y avait une certaine résistance. On pourrait dire, pour être malveillant, parce que vous ne savez pas quoi dire, à rentrer dans une espèce de préfiguration. De, comme ici en France, on te dit toujours, mais même chez les gauchistes, chez les alternatives, projet de société. On s'est contenté plutôt de revenir souvent, c'est un peu de dada quand tu le répètes, mais c'est normal, à la phrase de Marx, le communisme n'est pas un régime, n'est pas un projet de réorganisation de la société. Nous appelons communisme le mouvement réel qui détruit, dépasse, abolit, aufheben, c'est un terme allemand très complexe, sur lequel Hegel a écrit des pages pour dire comment il est dans ce complexe, l'état des choses actuelles.
Oui, donc du coup, ce qui fait que dans cette vision-là, presque on va dire le dépassement communiste du travail, c'était pas quelque chose qui était dans une espèce de projection utopique et uchronique, mais beaucoup plus aussi une forme de rapports sociaux qui pouvait émerger déjà en fait ici, ouais, et maintenant dans le mouvement lui-même. Et donc finalement le dépassement du travail, d'une certaine dépassement communiste du travail, était déjà dans des formes de rapports sociaux entre camarades, qui étaient plus, disons, médiés par la marchandise ou par le travail, comme même les rapports syndicalistes, oui, tout ça, la camaraderie d'usine, ça reste globalement lié par ça, mais médiés par quelque chose d'autre, qui est la lutte.
Et c'est, à l'époque, tu sais, parfois, les slogans souvent peuvent être très heureux, mais ils peuvent être aussi la mort de la théorie, non? Bon, donc ils ont des limites. Mais quand même, nous utilisions beaucoup maturité du communisme, actualité du communisme, communisme versus socialisme. Le socialisme étant conçu comme le socialisme du capital, dans les formes les plus différentes, et dans le socialisme d'État réel, etc. Donc, et à un certain moment, on avait même contagié les gens du manifeste, Lucio Magri, etc., sur cette formule maturité du communisme. Ou alors, toujours Ferruccio Gambino, qui avait écrit un titre qui nous avait plu beaucoup, le communisme comme programme minimum, pour se moquer un peu de l'histoire, la transition. Mais c'est vrai que si on nous demandait, pour ne pas faire des discours tellement vertigineusement théoricisants que les gens n'arrivent pas à les visualiser, Donc, ça signifiait, autant que pour l'insurrection, entendu comme insurrectionnalité, qualité insurrectionnelle, et pas comme le moment de l'insurrection en général, et communisme aurait été, bah, peut-être quelqu'un pourrait dire qu'il peut se rassembler à l'idée de communisation qui a émergé maintenant. C'était un peu comme la puissance ou l'amour ou la faculté de la parole, quelque chose qui, ce n'est pas que on était très loin et des utopies rétrogrades. On n'avait pas l'idée d'un âge d'or ou d'un communisme des origines, mais on n'avait même pas l'idée d'un communisme qui, hop, est décrété parce que, guillemets, passé, faisons table rase, le monde va changer de base. Quelque part, il y avait l'idée que cette instance et aussi cette épiphanie par moment d'un caractère communiste des relations sociales, ce besoin, désir, passion, je dirais plus, des communautés, des communances, c'était passé au fil de l'histoire. Et je trouve que c'est pas par hasard qu'à la fin de sa vie, maintenant il y a des études sur ça, il y a beaucoup d'inédits de Marx qui s'étaient retournés et qui ont été un peu écartés, bien sûr, par le canon kautskien, mais par Engels aussi.
D'accord. Eh ben, merci Oresté pour de nous avoir parlé du coup du refus du travail, non pas seulement dans l'autonomie italienne comme tu le précises, mais dans l'Italie, disons, des années 60 et 70 de manière plus générale. Et donc on invite nos auditeurs qui voudraient en savoir plus sur cette période. Donc, peut-être déjà, bon, pour ceux qui veulent avoir un petit aperçu, à regarder les vidéos Oresté contre la montre, qui sont peut-être ce qu'il y a de plus accessible. Et puis après, à lire les ouvrages et articles qu'on a conseillés au début de l'émission. Voilà, merci Oresté.
Eh bien, grazie à te et merci. Et aux auditeurs.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.